Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, comment la Russie enrôle de gré, mais également de force, des Africains pour combattre en Ukraine. Ce sont les malgré nous de Poutine, ces combattants étrangers intégrés par la ruse ou par la tromperie à l'armée russe, aux côtés de leurs compatriotes volontaires pour combattre sur le front ukrainien. Des milliers de Sri Lankais, d'Indiens, de Népalais et beaucoup d'Africains venus du Bénin, du Cameroun ou bien encore de Centrafrique. Tous attirés en Russie par des offres d'emploi trompeuses, assorties de salaires mirobolants. Ils pensaient être chauffeurs ou mécaniciens. Les voilà désormais en première ligne, perdus dans le Donbass, véritable chair à canon étrangère pour l'armée russe. Comment les recruteurs de Moscou s'y prennent-ils pour enrôler ces hommes ? La stratégie du Kremlin pour renouveler ses troupes passe-t-elle par un véritable trafic d'êtres humains ? On en parle ce soir avec nos invités dans ce studio, Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et spécialiste de la Russie. Bonsoir.
Bonsoir.
Également à mes côtés, on ne le présente plus sur cette antenne, François Mazet, grand reporter au service Afrique de RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux. François Mazet, vous avez recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, un jeune Camerounais qui rêvait de vie meilleure et d'expatriation et qui se retrouve aujourd'hui au milieu des combats dans l'ouest de l'Ukraine. Il tient bien sûr à son anonymat, on l'appellera Samuel. Comment êtes-vous entré en contact avec lui et que vous a-t-il confié sur les conditions de son enrôlement dans l'armée russe ?
Alors, il m'a raconté son histoire, comment lui, qui était un diplômé du supérieur camerounais, avec un diplôme scientifique, qui vivotait en installant des climatisations à Yaoundé, a fait le choix de partir en Russie pour la promesse d'un emploi avec un de ses amis. Il m'a raconté comment, une fois arrivé en Russie, il s'est retrouvé dans un camp militaire, non pas pour y faire la cuisine ou pour nettoyer
c'est
les toilettes, comme il le pensait. Oui. Effectivement, on lui avait promis un travail de concierge. Alors, il savait que c'était dans un camp militaire, mais on lui avait dit que ça serait un travail de concierge. Sauf qu'une fois arrivé dans ce camp militaire, il s'est retrouvé comme les autres avec un uniforme et une Kalachnikov. Il m'a raconté comment, après une très brève formation avec d'autres Africains ou ressortissants aussi de pays arabes, eh bien, il avait été envoyé au front directement dans l'est de l'Ukraine, et il m'a raconté ce qu'il avait vu, les gens qu'il a perdus. Il m'a envoyé des photos, il m'a envoyé des audios, voilà, qu'on n'a pas pu exploiter pour des raisons évidemment de sécurité. Mais il était parti par exemple avec quatre autres Camerounais ce jour-là. Sur les cinq, il y en a trois qui sont morts, il y en a un qui est en fuite après avoir été blessé, et donc il reste lui. Voilà ce qu'il m'a raconté, ce qu'il voit, et puis surtout sa volonté de témoigner malgré les risques qui sont extrêmement importants. Mais il m'a dit clairement que s'il n'en sortait pas, il voulait quand même que le monde sache ce qu'il se passe, en espérant que certains Africains ne se fassent pas duper comme lui.
Alors c'est ce qu'on essaie de faire ce soir sur RFI, ces recruteurs qui l'ont donc appâté à Yaoundé, hein, c'était en mai l'an passé. C'est qui ? Ce sont des mercenaires de Wagner ?
Non, il est passé par une agence de voyage, lui, tout simplement. Une agence qui a tout ce qu'il y a de plus pignon sur rue, qui propose l'expatriation dans plusieurs pays, notamment la Russie, un tarif modique et pour avoir un emploi. Donc avec un de ses amis, ils ont foncé, ça a été extrêmement simple. Il a donné une copie de son passeport et il a payé un peu plus de 2 millions de francs CFA. Et voilà, ils sont partis en Russie. Son ami, qui est un père de 4 enfants, est mort au combat. Et donc, c'est aussi ce ressort intime, je pense, qu'il a poussé à vouloir en parler avant de partir. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas différents. Là, on voit bien que, voilà, il y a un entremetteur local. C'est c'est aussi le cas du mari de Linda, cette dame à qui on a donné la parole aujourd'hui sur RFI, qui est sans nouvelles de son mari, parti dans l'est de l'Ukraine, sans nouvelles depuis fin juillet. Lui aussi est passé par une agence de voyage camerounaise, donc avec un intermédiaire camerounais. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont recrutées directement par effectivement des groupes de mercenaires russes. Dans Jeune Afrique, il y a quelques mois, il y avait eu ce témoignage d'un centrafricain qui expliquait avoir été recruté directement dans un commissariat par un homme de Wagner. Ça avait été très mal reçu par les autorités centrafricaines, mais c'est tout à fait possible. Et puis, il y a aussi des gens qui y vont de bonne foi, qui savent qu'ils rejoignent l'armée russe, mais qui sont attirés par le salaire. On leur promet quand même 2 200 $ de prime à la signature, 2 000 $ par mois. C'est quand même une somme assez conséquente pour certains pays.
Alors, ces agences de voyage qui sont donc en lien avec des Russes ou bien avec des mercenaires russes, elles opèrent pas seulement au Cameroun, elles opèrent dans de nombreux pays africains, parce que visiblement, c'est malgré nous, africains, ils viennent à peu près de quasiment tout le continent noir.
Alors, c'est difficile d'avoir une idée générale, mais oui, clairement, c'est des gens qui ont mis en place une passerelle entre les pays d'origine et la Russie. Et en Russie, ils sont en lien, en cheville, avec des recruteurs de groupes paramilitaires. Donc ces gens arrivent à Moscou, on les laisse quelques jours, ils ont droit à la visite touristique, etc. Et puis ensuite, on leur propose de signer un contrat qui est exécuté plus ou moins par l'employeur. Et ce contrat les envoie au front.
Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, François, le nombre d'Africains qui se retrouvent ainsi enrôlés de force?
Honnêtement, c'est difficile. C'est difficile. Pour ce qui est des Camerounais, selon les témoignages que j'ai eus, on parle de plusieurs dizaines. Pour ce qui est des Africains subsahariens, plusieurs centaines. Donc on peut compter de manière plus large en milliers, puisque ce n'est pas un phénomène seulement africain. Il faut bien insister là-dessus. Il y a des Cubains, il y a des ressortissants de pays arabes, il y a des Indiens, il y a des Népalais. Je rappelle, l'année dernière, sur notre antenne, Sébastien Farcy avait travaillé sur ces Népalais partis en Russie, parfois pris par la Russie de la même manière. Et l'association au Népal avait compté plus d'un millier de personnes qui étaient parties. Donc ça donne une idée quand même de cette masse.
Florent Parmentier, est-ce le manque d'hommes, la difficulté de renouveler ces troupes qui poussent ainsi Moscou à enrôler de force ou par la Russie des milliers de combattants étrangers?
Alors l'enrôlement des Africains par la Russie s'explique par 3 motifs principaux. Premier motif, celui de renforcer effectivement ses effectifs. Donc un élément de ressources humaines, sachant que ça peut avoir un effet psychologique sur l'adversaire. L'idée de se dire que l'armée russe peut rafraîchir ses troupes, à savoir le élargir avec davantage d'hommes et donc avoir un effet psychologique de ce point de vue-là. Et puis ça peut permettre une certaine flexibilité opérationnelle dans ce cadre, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait faire venir des gens et les envoyer en première ligne. C'est plutôt ce qui semble être le cas pour la plupart des Africains dont on a pu avoir le témoignage et qui ont été dans ce cadre-là, mais vous pouvez aussi avoir accès à du renfort pour tout simplement s'occuper d'un certain nombre de questions logistiques, ce qui vous permet de tout simplement libérer des troupes et des militaires spécialisés pour le point. Donc ce premier élément, renforcer les effectifs militaires, c'est important. Il y a un deuxième élément qui est non moins important, qui est celui en quelque sorte de faire baisser les coûts internes de la guerre. Alors pourquoi ? Si la guerre est une guerre d'attrition, ce qui est le cas, c'est-à-dire il faut qu'on compare l'épuisement relatif des deux combattants. Si on regarde l'épuisement des deux combattants, des deux camps, la Russie essaie en quelque sorte de faire baisser le coût de la guerre pour sa population. D'abord parce que si vous mobilisez des mercenaires ou des gens qui ont été enrôlés de force, vous avez moins de contestations politiques en interne. Aujourd'hui, le cas de l'Ukraine est le cas d'un pays dans lequel un certain nombre de partenaires internationaux font pression sur le président Zelensky pour mobiliser les 18-25 ans ukrainiens. Or, si on touche à cette catégorie de la population, pour le moral national, pour tout simplement la manière dont sera gérée la guerre plus tard, ça aura des incidences nécessairement importante. La Russie se permet, en quelque sorte, de pouvoir alléger ce coût. Baisse des coûts également en termes de main-d'œuvre relativement bon marché qui est proposé. Parce que là aussi, même s'il y a des contrats qui sont signés qui peuvent paraître alléchants d'un côté, ils sont probablement moins intéressants que les Russes nationaux, en quelque sorte, à qui on propose le même élément. Baisse des coûts internes aussi parce que mobilisation rapide. Il est plus simple, effectivement, d'aller reprendre les réseaux Wagner et d'essayer de convaincre, soit par la manipulation, soit par volontaire, tout simplement.
Donc on parle d'une véritable stratégie russe, à la fois militaire, politique, économique. Est-ce qu'on peut parler également de trafic d'êtres humains? Est-ce que c'est ça, in fine, qu'on observe aujourd'hui?
J'ajouterais qu'il y a une troisième dimension qui est la dimension diplomatique. À savoir, c'est aussi un moyen pour la Russie d'exploiter ses alliances et sa présence en Afrique. On peut parler de trafic humain si on prend par exemple le cas des 35 000 étudiants africains présents en Russie aujourd'hui, et surtout pour toutes les personnes qui sont forcées de le faire. C'est quelque chose qui était légal, effectivement, de forcer quelqu'un d'aller sur le front, que ce soit par modalité de pression, par manipulation, par exploitation des vulnérabilités.
Ça ne va pas à l'encontre des droits de la guerre, ce genre de recrutement forcé ou par la ruse?
Si. Clairement, c'est-à-dire la mobilisation forcée est illégale. Le volontariat, lui, peut être légal puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'un contrat.
Alors les volontaires, j'y viens, hein. Il y a également des volontaires et des combattants venus de pays alliés. On a beaucoup parlé de ces soldats nord-coréens. Il y aura aussi des soldats qui viendraient de Syrie. Là aussi, ça fait partie de la stratégie militaire de Poutine pour les mêmes raisons que vous venez d'expliquer.
Si on considère que la Russie mène une offensive, teste dans plusieurs endroits du front la possibilité d'exploiter un point, alors oui, vous avez besoin effectivement d'envoyer un certain nombre d'hommes. Ça peut être visible parfois dans le cadre d'un accord interétatique pour la Corée du Nord, ça peut être d'autres types de combattants attirés par différentes raisons, etc. Mais oui, ça fait clairement partie effectivement aujourd'hui de la stratégie russe.
Alors le même système pour tous, en tout cas pour tous ces combattants, volontaires ou non, c'est qu'ils iront direction le front. Est-ce que c'est la chair à canon de Poutine dans cette guerre terriblement meurtrière par ailleurs pour la Russie?
C'est un moyen effectivement de mener la guerre d'agression.
Alors, je ne sais pas si Monsieur Parmentier a des chiffres sur lesquels il s'appuie sur les pertes russes. Moi, dans l'article, j'ai repris une estimation formulée par le ministère britannique de la Défense, qui estimait qu'au mois de novembre, il y avait eu plus de 45 000, je cite de tête, 45 000 pertes russes en un mois, record depuis le début de l'offensive. Il y a un institut américain qui parle de 50 morts par kilomètre carré gagné. Donc on est vraiment sur une stratégie de la chair à canon. Je ne sais pas si c'est des chiffres que vous utilisez, mais on voit bien que l'idée, c'est de gagner coûte que coûte un maximum de kilomètres carrés pour se mettre en position de négociation ultérieure.
Dans les deux camps, d'ailleurs.
Je pense que les chiffres sont difficiles à établir, pour la bonne et simple raison que des pertes, ça peut être des pertes simplement de décès, mais aussi un certain nombre d'invalidés. Mmh. Donc dans ce cadre-là, il faut savoir d'où viennent les chiffres. Il est évident qu'un chiffre venant, tout discours sert à quelque chose et à quelqu'un, et donc il est difficile de ce point de vue-là de se faire une véritable conviction. Il faut mettre ça en parallèle avec le nombre de pertes côté ukrainien, la taille tout simplement des deux combattants, c'est-à-dire qu'il y a un écart de population de un peu supérieur à 1 à 3,5 pour la Russie. Et il y a par ailleurs un nombre d'armes déversées par la Russie sur les défenses ukrainiennes qui est aussi considérable. C'est la raison pour laquelle on peut avoir en quelque sorte des... Je crois qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes. C'est un conflit de toute façon qui est extrêmement meurtrier, mais dont la particularité est peut-être d'avoir 90% des pertes qui sont des militaires. La proportion de civils au sein de ce conflit est relativement... c'est toujours trop. mais disons qu'il est bien plus limité que sur un certain nombre d'autres conflits.
Ce sont des chiffres effectivement extrapolés, on bâtit un peu sur ce qu'on peut, sauf de faute de figures un peu fiables. Un autre point, je pense, important dans le témoignage que j'ai recueilli, ce Camerounais dit, certains sont là depuis 2 ans, ils n'ont jamais vu un Ukrainien, ils n'ont jamais tiré parce que leur combat se fait... contre les mines, contre les drones, c'est une guerre à distance. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ?
Le plus probable est que, oui, c'est sûr que les Ukrainiens ont su, entre 2014, date de la fin de la première partie de la guerre russo-ukrainienne, et 2022, fortifier et défendre un ensemble de points. Ce qui peut être un facteur un facteur de lucidité du côté de la défense ukrainienne, et elle a su, j'allais dire, avoir infliger à la Russie et l'armée russe un bilan considérable. Il est néanmoins vrai que la manière dont le Donbass a été défendu a été, il a été en tout cas plus défendu et mieux préparé à l'invasion que les territoires qui se retrouvent derrière. Donc la question sera effectivement sur la durée, de savoir quel est l'état d'épuisement relatif des deux troupes. Naturellement, l'armée russe a marqué, j'allais dire, des signes de fatigue, mais elle a marqué des signes de fatigue tout en gardant en quelque sorte une maîtrise du rythme, c'est-à-dire il y a une question d'occupation de l'espace, il y a une question du rythme avec lequel vous souhaitez attaquer, puis il y a une question du nombre de pertes et du volume de pertes à la fois et d'utilisation des matériels.
Par sa capacité à toujours renouveler ses combattants de première ligne, y compris en les faisant venir des prisons, parfois des universités. Alors vous parliez des étudiants africains, c'est pas un point que j'ai abordé dans l'article, mais on sait qu'il y a des pressions sur les étudiants africains qui sont en Russie pour qu'ils s'engagent, pression sur les visas, pression sur, sur les diplômes, etc. Donc il y a aussi un certain nombre d'Africains qui se retrouvent à combattre pour la Russie, qui étaient déjà sur place et qui le font. Parfois, certains pensent aussi rendre service au pays qui les accueille, mais d'autres aussi voient le fait qu'ils pourraient être expulsés. Donc il y a une sorte d'enrôlement quasiment forcé, effectivement.
J'en reviens aux enrôlements forcés, justement, François. Comment vous expliquez le manque total de soutien des autorités camerounaise en ce qui concerne votre témoin Samuel, envers tous les malgré nous, alors qu'on a vu le Sri Lanka, le Népal, eux ont rapatrié certains de leurs ressortissants qui avaient été enrôlés de force.
Alors il y a plusieurs Camerounais qui effectivement ont fait remonter leur situation en vain à l'ambassade du Cameroun à Moscou. J'ai évidemment contacté le ministère camerounais des Relations extérieures, qui a pris bonne note de mes demandes de précision. Sans me revenir jusque-là. Peut-être que maintenant que le débat est lancé, les autorités camerounaises seront amenées à prendre position. Pour les pays africains, la Russie est un pays avec lequel on n'a pas envie de se fâcher. Un des dictons qu'on emploie le plus souvent, c'est que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. On ne va pas aller se fâcher avec Moscou.
C'est plus de l'embarras que de la complicité.
Ouais, même beaucoup d'embarras, je pense. Beaucoup d'embarras de la part des diplomaties de ces pays-là, oui.
Florent Parmentier, face à ce manque de troupes, face à ce manque d'hommes pour son armée, est-ce que finalement Vladimir Poutine n'a pas, même s'il montre les muscles, tout intérêt lui aussi à stopper cette guerre en Ukraine, sa fameuse opération spéciale ?
Il est certain que depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine doit entretenir une forme de doute par rapport à ses intentions. A fortiori, quand l'arrivée d'un nouveau président américain risque de rebattre des cartes, peut-être que...
Ça rebat toutes les cartes, d'ailleurs.
Oui, peut-être que... Enfin, il y a plusieurs scénarios sur la table. Le premier serait de dire et de penser que Donald Trump essaiera de faire monter en pression. Mais on n'est pas sûr, effectivement, de cela. Et donc, dans le cadre de cette arrivée, on aura beaucoup d'incertitudes.
Et c'est sûr qu'on y reviendra sur RFI. Merci Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, et merci également à François Mazet, grand reporter au service Afrique de RFI. Vous pouvez retrouver tous ces témoignages, tous ces reportages évidemment sur notre site internet. Remerciements à Sigrid Azeroual à la cellule invitée, et ce soir à la réalisation, Valentin Vanner.